Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être encore à l'écoute de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Avril est en général un mois très dense en matière d'événements musicaux et le millésime 2019 ne déroge pas à la tradition, c'est le moins qu'on puisse dire. Concerts et représentations d'opéra se succèdent ces jours-ci pour le plus grand plaisir des mélomanes, entre autres celui des fidèles de cette émission. Les mélomaniacs sont donc venus en nombre aujourd'hui dans ce studio pour animer ce numéro où j'ai le plaisir de recevoir Madame Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, et Messieurs Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour les sites Culture 31 et Actu Toulouse, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. À leur côté, un invité de marque, Christophe Gristy, le directeur artistique du Théâtre du Capitole, qui nous fait l'honneur de participer à cette émission pour présenter la programmation de la saison 2019-2020 de l'établissement qu'il dirige. Nous allons longuement parler avec lui en seconde partie de ce numéro. Dans un premier temps, c'est l'actualité musicale de la semaine passée qui va nous intéresser avec mes camarades chroniqueurs pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Hasard du calendrier, ça n'a rien à voir avec la venue de Christophe Gristy, c'est l'art lyrique qui va ouvrir cette rubrique puisque nous allons d'abord revenir sur les représentations d'Ariane et Barbe Bleue qui se poursuivent au Théâtre du Capitole jusqu'à ce dimanche 14 avril. Anne-Marie Chouchan, Serge Chauzy et Robert Pénavert, ici présents, ont assisté à une des premières représentations de cette nouvelle production de l'opéra de Paul Dukas. Tout le monde en dit beaucoup de bien. Et pas seulement à Toulouse d'ailleurs. Est-ce que c'est aussi votre avis ou est-ce que vous allez apporter une note discordante dans ce concert de louanges ? Robert, par exemple, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous qui êtes souvent assez critique.
Alors, j'aimerais préciser quelque chose. Effectivement, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Gristy. Il est en face de nous. Eh bien, écoutez, je peux vous assurer que c'est absolument sous aucune contrainte que nous allons évoquer ce merveilleux spectacle. Voilà, parce que moi, j'ai retrouvé dans ce spectacle les fastes d'une certaine période au Théâtre du Capitole, en particulier en termes de production. C'est un homme de théâtre italien qui s'est attaqué à ce spectacle, une œuvre très difficile, Ariane et Barbe Bleue, Paul Dukas, parce qu'il n'y a quasiment pas d'action. Et il s'appelle Stefano Poda. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait la responsabilité entière de ce spectacle, puisqu'il faisait la mise en scène, les décors, les costumes et les lumières. Eh bien, ce spectacle est merveilleux. Il y a une espèce de magie dans cette production. Alors, l'œuvre de Metterling est un peu comme Pélas et Mélisande, évidemment. C'est quand même un peu intellectuel. Ça fait appel au domaine de la psyché de chacun, etc. Alors, personnellement, j'ai vu une analyse très labyrinthique de ce qui se passe dans la tête de ces femmes qui n'arrivent pas à sortir de cette passion qu'elles ont pour Barbe Bleue. Alors, ce labyrinthe, on le voit au sol, on le voit dans ce magnifique décor de fond de scène qui est seul et unique, mais que l'on voit sous différents éclairages, et évidemment, il change, avec ces escaliers qui amènent quasiment nulle part. Et finalement, on se laisse entraîner dans cette aventure, même si nous connaissons la fin, bien sûr, mais on se laisse entraîner parce qu'il y a une magie dans ce spectacle, magie des lumières, magie des mouvements, magie de ces personnages qui sont admirablement dirigés sur scène, pour le dire,
oui.
Le metteur en scène,
oui,
c'est celui qui fait bouger les personnages.
Absolument, parce que souvent, voilà. On fait des réserves aussi sur la direction d'acteurs.
Oui, parce que très souvent, il n'y en a pas. Voilà.
Oui.
Donc, les metteurs en scène s'occupent de faire les entrées, les sorties, et puis après... Mais là, ce n'est pas le cas. Ça, je peux vous dire que tout le monde est parfaitement impliqué. Il semble en même temps que tout le monde, pour avoir discuté un peu après le spectacle avec les artistes, ils ont pris tous un réel plaisir à travailler ensemble, y compris metteur en scène et chef d'orchestre. Alors maintenant, il faut en venir au chef d'orchestre.
Oui, Pascal Roffey, oui, bien
voilà,
sûr.
Qui venait aussi diriger au Capitole pour la première fois une œuvre, de même que Stefano Poda, d'ailleurs, venait mettre en scène.
Il y avait beaucoup de premières dans ce spectacle.
Il y avait beaucoup de
prises de rôle, d'entrées au répertoire.
C'est vrai qu'il a un orchestre merveilleux, un instrument merveilleux. à sa disposition, et Dieu sait s'il est nécessaire pour un ouvrage impressionniste, symboliste, avec des accents debussistes, wagnériens parfois. Bon, voilà. C'est quand même une orchestration complexe. Et ensuite, il y a les chanteurs. Les chanteurs. Mais quand je dis les, il n'y en a pas beaucoup, ouais. En fait. Mais enfin, il y a avant tout un rôle écrasant, qui est le rôle, évidemment, d'Ariane, Nonon, Barbe Bleue, un rôle aussi, mais qui doit durer 3 minutes chrono en main. Oui. Et c'était le retour, excusez-moi, cher Christophe, mais je reprends votre expression, le retour à majesté à Toulouse de Sophie Coche, qui prenait le rôle également pour la première fois. Un rôle extrêmement difficile, qui ne demande pas un habitus très, très élevé dans l'aigu, puisqu'il ne dépasse pas le la, mais par contre qui est un peu sur le passage de la voix. Donc c'est extrêmement difficile, il faut une technicienne hors pair. Et en plus, c'est un rôle qui est extrêmement orchestré. C'est-à-dire que dessous, il n'y a pas de flûte et trois violons qui se battent en duel, pas du tout. Il y a un énorme orchestre.
Il faut passer par-dessus.
Ouais. Voilà, il faut passer par-dessus. Et en même temps, incarner Ariane.
Surtout
parce
qu'elle est
quand je disais en préambule qu'il n'y avait pas d'action, le nerf du drame, ce n'est pas l'action. C'est ce qui se passe dans la tête.
La psychologie des personnages. Comment elle vit cette emprise.
Que l'on a bien reflété dans la musique et dans la production. Dans tous les cas, autant le chef d'orchestre que le metteur en scène nous ont bien pris par la main pour suivre cette œuvre.
Bon, aucune réserve, si je comprends bien, de la part de Robert Pénavert sur ce spectacle. Qu'en pensent mes deux autres camarades, Anne-Marie d'abord ?
Je n'ajouterai rien de plus à la description de Robert, qui était très complète sur le plan scénique comme sur le plan vocal et instrumental. C'est vrai que c'est un spectacle superbe, un spectacle total, peut-on dire, parce que c'est ça l'opéra. Quand tout est réuni, la musique, les voix et la scène, là c'est, je crois, le plaisir complet qu'on attend d'un opéra. Et les réserves, on ne peut pas faire des réserves dans la mesure où l'incarnation vocale et dramatique de Sophie Coche est inouïe. En plus, c'est une prise de rôle pour elle. Et toutes les autres femmes et tous les interprètes sont vraiment tous en plein dans cet opéra. Ils chantent, ils jouent et c'est, je crois, quelque chose de complet et un vrai plaisir de découvrir aussi un opéra qu'on n'avait jamais vu au Capitole et pas beaucoup ailleurs, je ne crois pas.
Peut-être Robert qui veut préciser.
Oui, parce que tout à l'heure, j'avais pas tout à fait fini, pardon.
Oui,
mais puisque j'avais parlé de Sophie Coche, c'est bien, hein, puisque elle chante 90% de la partition, mais elle n'était pas seule.
La nourrice.
En fait, toute seule, ça ne tiendrait pas. Voilà. Donc, il y a un deuxième rôle féminin qui est de taille, c'est le rôle de la nourrice. Alors, c'est un rôle. Alors que tout le monde est plutôt dans le blanc, dans des tons comme ça très clairs, elle est tout en noir. Et c'est tout un symbole, évidemment, c'est pas un hasard, j'imagine. Si elle est habillée en noir, c'est un rôle étrange. Et en même temps, c'est un rôle qui rassure. Quand elle est sur scène, on la regarde pour être rassurée, parce qu'on se dit, mon Dieu, mais il y a des femmes prisonnières, est-ce qu'elles sont prisonnières, est-ce qu'elles sont mortes ? Comment Barbe Bleue va réagir ? Parce qu'il passe pour avoir été un assassin, etc.
Oui,
et bon, voilà. Et quand elle est là, on sent... Alors, je voulais évidemment saluer l'interprète Janina Bechle, parce que, en définitive, là aussi, c'est un rôle court, mais c'est un rôle dans lequel elle est souvent en scène. Et donc, il est important qu'elle existe en scène. D'ailleurs, ça faisait partie certainement du fait que son costume était sombre au milieu de toutes ces masses noires. Alors, Janina Bechle, et la voilà dans un rôle, bon, c'est pas Brangaine, certes, mais c'est un rôle qu'il faut tenir, et encore une fois, incarner. Je pense que c'est l'une des choses essentielles pour les artistes d'un pareil spectacle, c'est d'incarner leur personnage. Ensuite, il y avait les quatre... alors, il y a cinq femmes, bien sûr, mais il y en a une qui est muette, mais avec le bonheur d'avoir Dominique Sandra. Christophe, vous êtes arrivé...
Je voulais poser la question
à convaincre
Christophe
Dominique Sandra,
parce que j'étais surpris,
de venir faire un rôle muet. En fait, c'est un rôle muet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle fait une étrangère. Et donc, elle s'appelle Aladine. Et donc, de ce fait, on peut imaginer qu'elle ne parle pas le français. Voilà. Et donc, c'est un rôle muet. Mais il faut voir comment cette Dominique Sandra, sans rien dire... monopolise le plateau.
Il faut rappeler qui c'est, le cinéphile Robert Pénavert va peut-être s'en charger. Qui est l'actrice Dominique Sanda, avec qui elle a commencé ? On va parler beaucoup tout à l'heure d'œuvres mystiques, d'inspiration chrétienne catholique. Elle a commencé avec Robert Bresson. Puis après, bon, je vais en oublier, hein, mais il y a Vittorio De Sica, il y a Visconti, il y a Bertolucci, et puis bien d'autres. Elle a joué aux États-Unis, elle a joué avec John Frankenheimer. Bon, on la voit beaucoup moins maintenant. Alors comment vous avez réussi à l'attirer au Théâtre du Capitole pour ce rôle muet ?
Alors, écoutez, d'abord, je suis évidemment très touché de tout ce que vous dites. Merci de signaler le travail total de Stefano Poda. Il y a peu de gens aujourd'hui, je crois, qui ont cette vision-là de leur travail et qui savent tout du théâtre. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est plus rare. Des gens qui savent aussi bien s'occuper de la lumière, qui connaissent tout, qui étaient extrêmement présents dans les ateliers, aussi bien de décors que de costumes, qui connaissent tout des tissus, des matières, tout ça, et qui, en même temps, prennent soin de la direction d'acteurs, etc. Et alors, pour Dominique Sanda, je parlais avec lui, et un jour, moi, je suis fou de Sanda, et il m'avait dit, je veux pas quelqu'un de jeune, je veux... Et donc, on réfléchissait un peu à haute voix tous les deux. Je lui dis, il y a Dominique Sanda, etc. Et Stefano me dit, mais je la connais. Et il l'avait rencontrée en Uruguay, où elle vit. Et donc, on lui a écrit, et tout de suite, elle a dit, je suis folle de Maeterlinck, c'est un poète qui me touche beaucoup. Et elle m'a dit, je sais que le Théâtre du Capitole est un grand théâtre, donc je viens.
Allez, donc,
formidable.
Des voilà. Hasards qui n'en sont pas.
Tout est dit. Tout est dit, sauf Laurent le Barbe Bleu, c'était Vincent Le Texier.
Oui.
Et même s'il n'a pas grand-chose à faire, il le fait plutôt bien.
Il le fait bien.
Et même très bien. Même.
Et c'est un peu un sacrifice pour un chanteur d'accepter. Mais il nous a fait ce cadeau, c'est un beau cadeau qu'il nous fait. Parce que c'est vrai qu'il a trois phrases à chanter, et donc c'est un peu ingrat. Mais malgré tout, je pense que justement le spectacle est fait de telle façon qu'il s'est compensé par sa présence.
Et saluons les chœurs aussi.
Et puis, certes, il ne s'est pas encore exprimé.
Oui, d'ailleurs, je voudrais enchaîner là-dessus sur le chœur. Et l'idée de placer le chœur à l'intérieur de la salle, non pas sur scène, mais dans les hauteurs de l'amphithéâtre, sur le côté.
C'est un paradis, hein.
C'était extraordinaire, hein. Ça donnait une impression d'atmosphère irréelle, complètement ailleurs, quoi. Donc, formidable, hein. Et pour ma part, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce qui se passait dans la fosse. Le chef a pratiquement fait de l'orchestre le personnage principal, mais à côté d'Ariane, évidemment,
mais
il y a une espèce de dialogue entre l'orchestre et le personnage d'Ariane que j'ai trouvé fabuleux, vraiment extraordinaire, avec donc, comme Robert l'a dit, et ça c'est tout à fait vrai, le fait que les chanteurs incarnent. Ils ne se contentent pas de chanter, de bien chanter leur partition, mais ils incarnent un rôle, un personnage... Une idée, vraiment un immense plaisir, ça a été que de découvrir, bon en tout cas c'était mon cas, découvrir sur scène Ariane et Barbe Bleue, d'un grand musicien quand même. Il faut dire tout le bien que l'on peut penser de Paul Dukas, puisqu'il n'a pas écrit que L'Apprenti Sorcier. C'est un très grand compositeur qui a jeté la plupart des œuvres qu'il avait commencées parce qu'il ne les considérait pas comme assez belles.
Assez abouti.
Vraiment, on est heureux que celle-là, au moins, il l'ait conservée. Donc, c'est vraiment un beau spectacle.
Et puis donc, avec une merveilleuse Ariane.
Ah oui, une Ariane.
On va le redire.
À la fois physiquement, scéniquement, qui incarne le personnage et qui le chante avec un éclat. Il faut dire quand même qu'elle a une projection vocale tout à fait impressionnante. Alors, je sais qu'on la reverra la saison prochaine, je ne dis pas dans quoi.
Nous allons en parler après,
mais ça sera un grand plaisir de la retrouver.
Eh bien, puisque Sophie coche toutes les cases, nous allons nous faire un plaisir de l'écouter maintenant dans le Rhône d'Ariane, où elle triomphe en ce moment même au Capitole. La voici qui interprète un des airs fameux de l'opéra de Paul Dukas, « Ô mes clairs diamants ».
Thank you.
mais Clair Diamant, air extrait d'Ariane et de Barbe Bleue, interprété par Sophie Coche. Et je précise que cet extrait est enregistré pendant la générale de la production qu'on peut voir donc actuellement au Théâtre du Capitole, dont la dernière a lieu ce dimanche 14 avril à 15h. Et il reste des places, donc vous pouvez y aller, vous pouvez réserver. Nous allons maintenant parler d'une autre diva du piano, celle-ci, puisqu'il s'agit de Martha Argerich. Elle était en concert samedi dernier à la Halle au Grain pour le compte de la bien nommée Saison des Grands Interprètes. Et n'était pas seule, la pianiste russe Lilia Zilberstein l'accompagnait dans un programme à deux pianos où elles ont joué deux concerts, l'expression n'a jamais été si appropriée, des œuvres de Schumann, Liszt et Rachmaninov. Nous étions tous les trois dans la salle, Anne-Marie et Serge. Alors évidemment, c'est toujours un grand moment d'écouter Martha Argerich en live. Ça l'était d'autant plus qu'elle jouait avec cette excellente pianiste qu'est Lilia Zilberstein. On a vraiment eu droit à une très belle soirée de musique. Je pense que vous serez tous les deux d'accord avec moi.
Oui, oui, tout à fait. Bon, Martha Argerich, c'est pas une surprise, hein. Lilia Zilberstein, un peu. Bien que les deux pianistes jouent souvent ensemble, hein. Ouais, elles se sont réunies d'ailleurs très souvent dans le cadre du festival de Lugano, Martha Argerich and Friends, le festival qui maintenant est arrêté. Et donc là, alors c'était intéressant de voir les deux parce que, à moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a l'impression que, bien que chacune d'elles possède sa propre personnalité, et en le regardant jouer, on pouvait entendre des différences dans la manière de frapper les accords ou les notes, mais elle se place au service d'une approche commune. Alors, c'est une espèce de dialogue permanent entre les deux pianos, avec des différences de timbre entre les deux pianos, entre les deux touchés, mais avec une cohésion, une cohérence tout à fait extraordinaire. Donc vraiment, un très grand plaisir que d'entendre ces deux dames dans un programme pas très habituel, évidemment.
Mais oui,
c'est pas souvent.
Loin de là, même.
Ah non, non, non. Puisqu'en première partie, il y avait les six études en forme de canon de Robert Schumann, qu'on entend très rarement. Une œuvre qui est due un peu à l'admiration que Schumann porte à Bach, hein, puisqu'on sent qu'il y a vraiment une structure qui est basée sur l'art de Johann Sebastian Bach, effectivement. Et là, les deux pianistes ont choisi de jouer la version qu'a écrit Debussy. Bizet avait également écrit une version, ce qui est incroyable, de grands compositeurs français qui avaient repris cette œuvre de Schumann. Et donc, c'est la version de Debussy, une version, comme on pouvait s'y attendre, très colorée, très belle. Et donc, vraiment, une découverte, hein, pour la plupart des spectateurs qui étaient là. Ça, c'était pour la première œuvre. Et puis ensuite, toujours dans la première partie, il y avait ce fameux concerto pathétique de Franz Liszt, alors qu'il y a toute une histoire, hein, mais qui a été publié en 1865. Alors là, c'est une œuvre dans laquelle la virtuosité s'exprime au premier rang, hein, donc. Et toutes les deux faisaient assaut de virtuosité, justement. Pas simplement technique, mais d'une force et d'une intensité tout à fait impressionnante. Alors, on a l'impression de retrouver dans cette œuvre quelques passages des années de pèlerinage ou de la sonate en si mineur. Donc, très très bien. Et puis enfin, en deuxième partie, moi c'est peut-être ce que j'ai préféré encore, c'est la version pour deux pianos des danses symphoniques de Rachmaninov.
C'était très très beau, ça.
Ça, une pure merveille. Alors, c'est une œuvre dont on connaît très bien à Toulouse la version symphonique, puisque Tugan Sokiev adore cette œuvre. Il l'a déjà dirigé plusieurs fois à Toulouse et puis en tournée avec l'orchestre. Et donc là, on a la vision pianistique, donc originale, hein, de ces danses que le compositeur Rachmaninov avait dédiées à son ami Vladimir Horowitz, qui n'était pas un petit pianiste, hein. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans la manière des deux pianistes d'aborder cette œuvre, c'est qu'elles l'ont abordée comme une œuvre symphonique. On avait l'impression d'entendre des instruments et d'entendre les richesses de couleurs d'un véritable orchestre symphonique. Donc, vraiment là, un grand plaisir, tel que c'est une ovation qui a salué cette exécution et tout le concert. Et donc, ça nous a donné droit à trois bis quand même. Eh oui, avec un extrait de la première suite de Rachmaninov, puis un tempo di valse, donc pour piano à quatre mains, toujours de Rachmaninov. Et enfin, alors ça c'était la surprise, pour terminer, une œuvre française qui était le final de Scaramouche de Darius Milhaud, la suite pour deux pianos que Darius Milhaud a écrite donc, sur le thème de Scaramouche. Donc vraiment, c'était la joie de vivre pendant ce concert.
Et puis elles ont été très généreuses. Hein.
Ah, très généreuses.
Très généreuses, parce qu'il y a eu les trois bis, mais même dans l'exécution, dans les saluts au public.
Absolument.
Elles ont salué tout le
monde. Ah oui, c'était très amusant, parce que pour saluer, oui. Elles se déplaçaient, elles allaient devant chacune des six sections de la halle au
grain. Tout le monde y a eu
droit. S'incliner devant chaque section, donc formidable. Très, très bien.
Anne-Marie,
Oui, mais toutes les deux étaient en même temps des virtuoses inouïes et dotées d'un fort tempérament. Hein,
oui.
Toutes les deux.
Oui, il y a la personnalité aussi dans leur
exemple. Personnalité, Martha Argerich et Lilia Silberstein. Elles arrivent à donner la sensation qu'elles ne font qu'une voix, tout en étant chacune techniquement au top, on pourrait dire. Et je crois que c'est un grand récital à cause de ça, à cause de deux tempéraments et de deux techniciennes exceptionnelles dans un programme qui n'était pas courant hein, au niveau du piano. Et je crois que tout le monde a apprécié, c'est vrai, cette
soirée. Le public a applaudi à tout rompre. Hein,
oui, complètement. Oui, et puis, oui. La Logan était pleine.
C'était plein, oui.
C'était pas du piano, du bout des doigts.
Ah non.
Un piano engagé.
Complètement.
Voilà.
Notez que le prochain concert de la saison des grands interprètes est programmé lundi 20 mai à 20h à la Logan, bien sûr. C'est le Budapest Festival Orchestra dirigé par Ivan Fischer avec le pianiste Emmanuel Axe qui va s'y produire pour un programme d'œuvres de Rossini, Mozart et Schubert. Fin de cette première partie d'émission, nous faisons l'habituelle petite pause d'une minute. Nous nous retrouvons ensuite pour la seconde partie avec Anne-Marie Chouchan, Serge Chosy, Robert Pénavert et Christophe Gresty, notre invité d'honneur, pour nous plonger dans la programmation de la saison 2019-2020 du Théâtre du Capitole. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour les sites Culture 31 et Actu Toulouse, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, et avec Christophe Gresty, directeur artistique du Théâtre du Capitole.
Mélomanie. L'agenda.
Et l'actualité foisonne ces jours-ci au Théâtre du Capitole, puisqu'en dehors des représentations d'Ariane et Barbe Bleue, nous avons pu découvrir la programmation de la saison 2019-2020, présentée la semaine dernière à la presse et au public. C'est la deuxième que vous concevez entièrement, Christophe Gresty. Avant de la regarder en détail avec vous, si je vous demandais de la définir, je sais que c'est peut-être pas très simple, de la résumer en un mot, en un adjectif, en quelques mots, ou en une formule, qu'est-ce que vous pourriez dire ?
En fait, je compte plutôt sur vous là-dessus, non ?
Et voilà,
moi,
ça me retombe dessus.
Je suis évidemment au milieu de... Vous avez sans doute plus de distance. Ma réponse va être longue, en fait. Je le dis souvent, c'est un service public, le Théâtre du Capitole. Ce n'est pas un festival, c'est une maison qui doit être ouverte à tous, au plus large public possible, donner un éventail toujours le plus ouvert possible du répertoire, etc. Donc, il n'est pas question de faire de saison thématique. Ce ne serait pas intéressant. Et puis, ça serait plus contraignant, mais pour aucun résultat intéressant. Il se trouve que cette année, il y a un certain nombre d'œuvres qu'on pourrait dire mystiques, en tout cas qui tournent autour de l'idée de sacré, que ce soit un sacré, celui gaulois de Norma ou celui de catholique de Bernanos ou celui, alors là, cosmique de Wagner avec Parsifal et avec quand même le diable qui vient tout emporter à la fin, le diable de Boïto, Méphistophélé. Voilà, on est évidemment dans une saison qui évoque la question du sacré, mais c'était pas du tout une volonté.
Voilà, et ben il a très bien répondu. Qu'est-ce que vous en pensez, mes petits camarades ?
Excellent. Surtout de conclure cette saison par le diable.
C'est oui, vraiment... c'est toujours lui qui gagne à la fin, on le sait. Hein, bon.
On sait bien que s'il n'y avait pas le mal, il n'y aurait pas le bien. Donc voilà, il faut impérativement.
Et réciproquement.
Et réciproquement, voilà. Donc c'est normal, il y a Klingsor dans Parsifal, il y a Méphistophélé. Voilà. Ouais.
Bon, alors cette saison, maintenant, on va la regarder en détail. Hein. On va la prendre dans l'ordre chronologique. Et comme l'année dernière, parce qu'on ne change pas une formule qui gagne, vous avez choisi d'ouvrir la saison avec un grand classique du répertoire. L'an dernier, c'était la Traviata. Et cette année, ce sera Norma, du 26 septembre au 10 octobre. 8 représentations d'un des chefs-d'œuvre du bel canto, mais un opéra que l'on a curieusement, je ne sais pas si c'est curieusement, on ne l'a plus entendu au Théâtre du Capitole depuis 40 ans. D'où l'intérêt sans doute de le reprogrammer pour lancer en fanfare la prochaine saison. C'est bien ça l'intention. C'est un lancement en fanfare avec une très grande œuvre et une grande distribution. Mais ça, vous allez nous en parler.
Oui, c'est vrai que j'aime bien, je trouve qu'une ouverture, ça doit rassembler un grand public. Alors, la Traviata et Norma, ça a l'air d'être la même chose, mais en fait, c'est des œuvres extrêmement différentes.
Hein, oui,
on n'est pas du tout dans le, c'est pas du tout la même chose. Et d'abord, en effet, c'est une œuvre qui n'avait pas été donnée depuis très longtemps au Capitole. Et, condition vraiment sine qua non, on trouve aujourd'hui quelques cantatrices qui peuvent chanter le rôle et qui aiment le chanter, qui ont envie de le chanter, donc il faut en profiter. Et nous avons deux castes, ça c'est un luxe formidable, et deux castes je pense vraiment extrêmement intéressants l'un et l'autre. Et en fait j'avais, il y a 3-4 ans je crois, j'avais vu que Marina Rebecca, qui est une des grandes cantatrices vraiment d'aujourd'hui et qui chante ce répertoire et qui l'aime beaucoup, chantait sa première Norma à Trieste. Et j'étais allé l'entendre, évidemment, en ayant en tête quelque chose. Et puis, c'était magnifique. Donc, voilà, dès qu'on a eu l'occasion, dès qu'elle était libre, etc. Donc, j'ai monté cette Norma. Karine Day a chanté une fois le rôle en Espagne, une seule fois. Et j'en avais eu des retours magnifiques. Voilà, elle était libre aussi. Enfin, je me dis, là, c'est le moment d'y aller. Après, je crois que la chose aussi difficile au moins, disons, que le chanter le rôle titre, c'est de le mettre en scène.
Ouais.
Quand je veux faire connaissance avec un jeune metteur en scène et qu'il accepte de jouer le jeu, je lui demande de travailler sur Norma. Parce que Norma pose tous les problèmes de mise en scène de l'opéra. Vous pouvez évidemment pas faire une reconstitution historique. Et donc, il faut trouver quelque chose qui ressemble à l'œuvre, sans en être une copie. Donc, c'est extrêmement difficile. Et là, voilà. Donc, là aussi, j'étais content parce qu'en même temps que des grands titulaires, on a une grande femme de théâtre.
Ah là, il faut en parler parce que.
Un grand homme de théâtre. Elle aime le dire elle-même.
Un grand homme de théâtre, bon.
C'est Anne Delbé, qui a une carrière gigantesque, qui a beaucoup travaillé sur Racine, sur Schiller, à la Comédie Française, au Festival d'Avignon. Elle a été compagnon de route de Béjart, de Chéreau, enfin, vraiment une énorme carrière. C'est elle qui a relancé la gloire il y a quelques années de Camille Claudel avec son
encore
son
la moment. Famille Claudel, on va en parler.
Voilà. Et j'ai pensé à elle parce que je voulais quelqu'un qui vraiment sache ce qu'est la tragédie et le prenne vraiment sous cet angle-là, sous l'angle vraiment du grand genre. Et évidemment, c'est une œuvre qu'elle adore, donc elle était enchantée et elle adore l'opéra. Donc ça c'est bien pour nous parce qu'elle adore les chanteurs. Voilà, donc ce sera avec cette grande dame de la tragédie, enfin cette grande connaisseuse de la tragédie, et un chef qui est fantastique, le directeur musical de Bari, Gianpaolo Bisanti.
Bisanti. Ouais. Alors, le doublon, si on peut dire, de Marina Rebecca, peut-être en dire un mot, donc sur Clara Kolonitz.
Ah, Clara Kolonitz, ça, c'est, je suis très, très heureux de l'accueillir, parce que c'est un nom que beaucoup d'amateurs commencent à murmurer. On sait que dans la troupe de l'Opéra de Budapest en Hongrie, il y a un trésor incroyable qui s'appelle Clara Kolonitz et qui sort très, très peu de Hongrie. Et ben voilà, donc elle sera là pour deux représentations de Norma. C'est un de ses rôles, c'est un des rôles qu'elle chante. Elle chante tous ses grands rôles à Budapest et puis dans quelques autres villes, mais surtout à Budapest. Elle chante Norma, elle chante Lucia, elle chante Traviata, elle chante les Huguenots, ce genre de choses. Donc ça, je vous recommande Clara Kolonitz et Marina Rebecca, qui est une splendeur.
Oui, il y aura beaucoup de découvertes dans cette distribution. Il y aura aussi un retour, enfin quelqu'un qu'on a déjà entendu, c'est Airam Hernandez.
Oui, là qui fera le deuxième cast de Polion, qui était dans notre Traviata l'an passé. Là, donc il vient faire sa prise de rôle. Je pense que c'est là exactement une œuvre pour lui. Et un fantastique ténor en premier cast, s'appelle Martin Mühle, qui chante ses grands rôles, qui est un chénier fabuleux. Voilà, ça, je suis très heureux de le voir.
Donc, je le redis, ouverture de saison en fanfare. Et bien maintenant, si je ne diffuse pas Casta Diva après cette présentation, je vais recevoir des dizaines de lettres de plainte. Alors, afin de ne pas passer pour un provocateur, je vais vous en proposer une version, la célèbre cavatine de Norma. Et c'est bien sûr Marina Rebecca qui l'interprète.
Thank you.
Marina Rebecca qui interprétait Casta Diva, l'air le plus célèbre de Norma, l'opéra de Bellini dont vous pourrez découvrir la nouvelle production avec Marina Rebecca entre autres du 26 septembre au 10 octobre au Théâtre du Capitole dans une mise en scène d'Anne Delbé. Et la suite, c'est un autre chef-d'œuvre de l'opéra français, celui-là, Dialogue des Carmélites de Francis Poulenc d'après la pièce éponyme de Georges Bernanos. Il ne s'agit pas d'une nouvelle production cette fois-ci puisque cette version a été créée en 2013 au Théâtre des Champs-Élysées dans une mise en scène d'Olivier Py, que l'on verra d'ailleurs bientôt au Théâtre du Capitole, mais sur scène dans Mamselle Nitouche. Parmi nous, il y en a un qui a vu cette version de Dialogue des Carmélites à sa création il y a 6 ans, c'est Robert Pénavert. Quel souvenir vous en gardez ?
Un souvenir particulièrement ému, et je me souviens avoir évoqué ce souvenir avec Christophe Gristy il y a quelques années, et lorsqu'il m'avait fait part de son envie de faire venir cette production, je n'ai plus qu'applaudir parce que moi, ça fait partie des plus grands spectacles que j'ai vus. Je n'ai pas vu grand-chose, mais et que personnellement, je mets en face du Chevalier à la Rose de Munich, dirigé par Kleiber, en face du Tristan d'Orange avec Nilsson. Et voilà. Alors simplement, à la fin du spectacle, je me souviens parfaitement, on se demandait qui allait commencer à applaudir. Et on se l'est demandé pendant au moins 2 ou 3 minutes. Et là, ce que vous allez voir, c'est quelque chose qui se passe... Enfin, je ne vous raconte pas, mais ça se passe plutôt de manière très éthérée. C'est... Ça ne fait pas peur du tout, c'est presque une rédemption. Enfin, vous allez voir, ce qui se passe, c'est merveilleux. Et puis finalement, il y a quelqu'un... On entendait des sanglots autour de nous.
Bien sûr.
Très clairement. Oui. Hein. Et puis, il y a quelqu'un qui a commencé timidement à battre des mains. Et puis ensuite, 2 heures d'ovation. Et la plus grande ovation a été décerné, attribué à Olivier Py. Quand il est venu saluer, la salle s'est levée. Et ça, en termes d'ovation pour un metteur en scène, c'est rare.
Oui.
Franchement, c'est rare. Mais vous allez voir, ce qui fait l'adage, je ne veux pas trahir, spoiler, comme on dit maintenant, la scène de la mort de la grande prieure, mais c'est vraiment quelque chose qui vous renverse littéralement. On en a vu des choses émouvantes à la matière, mais ça, vous allez voir, ça nous transporte déjà ailleurs.
Oui.
Alors, on Olivier est Py, ailleurs.
Olivier Py, qui peut être parfois controversé, mais lorsqu'il s'attaque à des grandes œuvres catholiques, et ça, Christophe Gristy pour en témoigner, il fait des choses formidables. Il a fait un soulier de satin là, il y a 10 ou 12 ans au Théâtre de l'Odéon qui avait été extraordinaire, la version longue. Donc, la distribution que vous avez vue aux Champs-Élysées, il y avait Sophie Coche dedans.
Oui, effectivement.
On la retrouve. Bah,
il y avait une
Patricia Petitbon, Sandrine Piau, Véronique Jean.
Voilà, bon.
Il y avait ce qu'il fallait.
Voilà,
et là, donc, nouvelle distribution. Et c'est là que j'attends Christophe Gristy parce que Blanche de la Force, donc ça va être Anaïs Constant, qui se trouve confier un rôle, c'est pas rien quand même, Blanche de la Force. Ça va être, je suppose, une première pour elle.
Bien sûr.
Hein, oui. Première pour elle. Et puis, on retrouvera Annaïk Morel, qu'on a vu tout récemment, magnifique, dans le rôle du compositeur d'Ariana Naxos. Janina Bécheleux, qui est en ce moment dans Ariane et Barbe Bleue, dans le rôle de la nourrice. Catherine Hunold, qu'on a vu il y a peu aussi, Ariana Naxos. Jody DeVos, là aussi, vous nous avez préparé un casting. Je ne sais pas s'il faut dire de rêve, mais en tout cas de première qualité.
Fait qui fait rêver.
Oui.
Oui, moi aussi, bah voilà, j'aime rêver avec... C'est les mêmes choses que le public qui me font rêver. Donc voilà. Par exemple, pour Anaïs Constant, je trouve que c'est très important que des directeurs donnent des grands rôles à quelqu'un qui n'est pas non plus, qui ne sort pas du conservatoire, qui a déjà une certaine expérience. Mais il faut faire avancer ces jeunes artistes chez lesquels on sent évidemment du talent.
Ouais.
Et évidemment, tout ça est toujours fait, c'est jamais en l'air. On a fait des séances de travail, on a fait des auditions. C'est toujours extrêmement ouvert. C'est-à-dire qu'on se dit, si ça marche pas, on va pas le faire. Il faut pas envoyer des jeunes dans le mur. Et là, on a fait des auditions et ça lui va comme un gant. Et moi, je n'aime pas quand les blanches sont des Constance bis. J'aime que ce soit un vrai lyrique qui chante Blanche. Et parce que Constance est un... Enfin, soprano léger. Il n'y a rien de léger dans la Carmélite parce qu'il faut passer un orchestre qui est quand même particulièrement...
Solide.
Mais je n'aime pas que Blanche soit une deuxième Constance. Et j'aime vraiment un vrai lyrique dans cette œuvre-là. Et c'est ce qu'elle est. Et les séances de travail qu'on a pu faire étaient bouleversantes parce qu'elle incarnait vraiment le texte. Donc ça, c'est... Je pense que ça va être magnifique. Et là aussi, beaucoup de prises de rôle.
Oui.
Jody DeVos, c'est sa première Constance. Janina Bechelet, sa première prieure. Par contre,
Annaïk Morel.
Mère Marie, c'est un des grands rôles d'Annaïk Morel. Je l'ai vu le faire à Lyon. Elle est magnifique. et Catherine Hunold qui, bon, voilà, qui fait les rôles de Crespin, en gros, donc elle chante Lidoine.
Et donc Jean-François Verdier, la direction musicale.
Absolument. Grand musicien qu'on va faire venir ici la première fois pour Werther à la fin de la saison.
Oui, alors ça sera non pas du tout un des grands moments de l'année, là, c'est Dialogue des Carmini, parce que c'est Dialogue au pluriel. Je vais proposer à nos auditeurs un extrait de l'opéra de Francis Poulenc tiré de la version d'Olivier Py au Théâtre des Champs-Élysées. Le final, la montée à l'échafaud des religieuses qui chantent en chœur le Salve Regina, c'est beau, poignant et terrible. Le Salve Regina de Dialogue des Carmélites, un extrait de la version qu'Olivier Py a donné de l'opéra de Francis Poulenc au Théâtre de Champs-Élysées en 2013. Et donc vous pouvez découvrir ou redécouvrir cette production avec une nouvelle distribution du 22 novembre au 1er décembre sur la scène du Théâtre du Capitole. En même temps, il va y avoir la création mondiale les 23 et 24 novembre à Saint-Pierre-des-Cuisines d'une œuvre de Marc Bleuze, l'ancien directeur du Conservatoire de Toulouse. Elle sera dirigée par son fils Pierre et nous allons rester dans la mystique et la grande littérature catholique puisque c'est une pièce de Paul Claudel qui a inspiré cette création à Marc Bleuze. De quelle pièce s'agit-il, Christophe Gresti ?
Il s'agit de l'Annonce faite à Marie, qui a déjà d'ailleurs été mise en musique par quelques musiciens, dont Braunfels, qui en a fait une œuvre magnifique. Donc là, je suis très heureux d'accueillir cette création à Saint-Pierre-des-Cuisines, qui en plus est un endroit très particulier, très très beau, très inspirant. Et en fait, donc, ce sera sur le dernier week-end du Dialogue des Carmélites, samedi et dimanche. Ce qui fait, voilà.
C'est le grand week-end mystique.
Le grand week-end mystique entre Claudel et Bernanos. Et ça s'est fait de telle façon qu'on puisse, parce qu'après tout, il y a des expériences qu'il faut faire, qu'on puisse voir les Carmélites dans l'après-midi et l'Annonce faite à Marie le soir à
20h, donc le dimanche et le samedi d'ailleurs. Voilà. Donc vous pouvez vous faire le dimanche votre grand trip mystique. Dialogue des Carmélites à 15h, Annonce faite à Marie. À 20h, les deux frères ennemis, comme vous aimez à les appeler, Bernanos et Claudel, mais enfin c'est formidable. Alors je donne un petit peu la distribution. Il y aura Clémence Garcien qu'on connaît à Toulouse parce qu'elle est issue du Conservatoire de Toulouse. Elle chante notamment avec l'ensemble baroque de Toulouse, elle a chanté avec l'orchestre de chambre. Il y aura les Sacboutiers, n'est-ce pas, Serge Chosy, le chœur Antiphona, et Sarah Lolan, qu'on a vu récemment dans Ariane Anaxos. Voilà, très très belle distribution, livret et mise en scène de Jean-François Gardeil. Notez bien ça, votre week-end des 23 et 24 novembre à Saint-Pierre-des-Cuisines. La suite, c'est l'Orfeo de Claudio Monteverdi les 5 et 6 décembre, et c'est le grand retour, sauf erreur de ma part, de l'opéra baroque au Théâtre du Capitole. Est-ce que Robert Pénavert, Serge Chosy, vous qui assistez à peu près tous les opéras, pas à peu près d'ailleurs, à tous les opéras au Théâtre du Capitole depuis longtemps, vous confirmez, je crois qu'il y a 5 ou 6 ans qu'on n'a pas vu un opéra baroque au Théâtre du Capitole.
Oui, c'est à peu près ça. Et quant à l'Orfeo, de ma mémoire, je ne m'en souviens pas. On peut remonter sur un peu plus d'un siècle et je n'en vois pas trace. Alors évidemment, depuis la date de la création, est-ce que ça a été donné à Toulouse en 3 siècles? Bon, peut-être, mais dans le temps que l'on qualifie de moderne, en gros depuis le début du XXe siècle, la fin du XIXe, non, ça n'a jamais été affiché.
Oui, voilà, c'est l'œuvre qui marque la naissance du genre opéra, hein, rappelons-le. Alors, la distribution, la mise en espace, expliquez-nous un peu, là c'est sûr. Deux représentations seulement.
Absolument, oui. Donc là, nous accueillons un artiste que j'aime énormément, qui s'appelle Emiliano González Toro, qui est un des
grands spécialistes du rôle.
Spécialiste de ce répertoire et du rôle. Et il a créé très récemment son propre ensemble de musique. Et il dirige et chante, et chante à la fois. Voilà, j'ai voulu soutenir vraiment cette entreprise. En plus, il a vraiment réuni une magnifique distribution. Il y a Emeke Barat, qui est vraiment une magnifique artiste pour ce répertoire. Puis d'autres, Eleonore Pancrazy, Alix Le qui est formidable, une jeune mezzo française, voilà, donc il y a vraiment une belle distribution, et donc c'est l'Orfeo, si vous voulez, ça n'a pas besoin du, on peut le faire avec des décors, des costumes, etc., mais c'est pas ce genre de musique, c'est quand même, d'abord ça s'appelle une fable en musique, et c'est vraiment ça, on peut mettre, avoir une mise en espace, mais ça suffit largement, on n'a pas besoin d'en faire un vrai grand spectacle avec des changements de décors et de costumes, donc ça s'y prête très bien, et donc on fait deux représentations au mois de décembre.
5 et 6 décembre. Et puis après, un monument et un des très grands moments de la saison, à n'en pas douter aussi, Parsifal, l'ultime opéra de Richard Wagner, du 26 janvier au 4 février. Alors là, c'est le sacré, l'épopée, le mythe, tous à la fois dans ce spectacle total et grandiose qu'est Parsifal. Là encore, nouvelle production dont vous avez confié la mise en scène au Toulousain Aurélien Bory. Comment s'est nouée cette collaboration?
Évidemment, c'est le travail d'Aurélien Bory m'intéresse beaucoup. Je vois le côté visionnaire de son travail. Et en même temps, donc, j'avais le souhait de monter un Parsifal, qui n'a pas été donné depuis, quand même, là aussi, quelques temps à Toulouse. Bon, même si c'est un peu plus récent que Norma, par exemple. Et puis, aussi, je savais que Sophie Coche voulait faire sa première Kundry. Voilà, il y avait un certain nombre de raisons pour lesquelles se lancer dans cette aventure, parce que c'est une aventure pour un théâtre comme le nôtre. C'est un énorme projet pour nous. Mais ces énormes projets, évidemment, rassemblent vraiment toute la maison. Pour nous, c'est des épopées, donc c'est formidable. Ça nous donne beaucoup d'énergie. Donc le projet est né comme ça, si vous voulez, la conscience de vouloir travailler avec Aurélien Bory, la coudrine Sophie Coche, Parsifal pas donné depuis longtemps, de faire un grand projet Wagner, voilà.
Aurélien Bory, que Laurent Pellier a qualifié un jour, je me rappelle très bien, de poète de l'espace.
Voilà, mais ça c'est idéal pour Parsifal.
Poète
c'est
de l'espace. Puis je crois qu'il avait envie, lui, de vraiment se confronter à cette œuvre.
Hein. Oui, ça vraiment, je veux dire, quand je me souviens de son
regard qui s'éclaire.
Quand je lui ai proposé la chose.
Œuvre grandiose, donc il faut une distribution grandiose. Sophie Coche, vous l'avez citée. On reverra Nikolaï Choukov, qui avait été formidable dans Tiflande. Ouais, je pense que tous mes camarades ici présents seront d'accord. Peter Rose et Mathias Gern, qu'on a entendu récemment au récital.
Et puis le cœur.
Ah oui,
le travail de cœur extraordinaire dans cette œuvre-là. Et le cœur du Capitole a atteint maintenant un niveau qui donne confiance.
Tout à fait, ils sont merveilleux. Puis il y a un formidable chef de cœur, Alfonso Cagliani. Oui. Et on aura le renfort là pour ça du cœur de Montpellier.
On va écouter la voix magnifique de Nikolaï Choukov dans un air de Parsifal, histoire d'avoir un petit avant-goût de ce qu'on pourra entendre au Capitole en janvier prochain. Oh,
nicht die Wunde ist es. Fließt ihr Blut, ich schwimme dahin. Hier, hier im Herzen der Brand, das Sehnen, was wohl ich alle sehne, was alle sind in mir fast und sind. Oh, oh.
Extrait de Parsifal chanté par Nikolaï Choukov que vous pourrez retrouver au Théâtre du Capitole dans une nouvelle production de l'ultime opéra de Richard Wagner, mise en scène par Aurélien Bory du 26 janvier au 4 février 2020, ensuite du 27 février au 6 mars, un autre grand classique du bel canto, l'élixir d'amour de Caetano Donizetti. Là, il s'agit d'une production qui a été créée à Toulouse en 2001.
Alors, c'est en 2001, mais ça n'a pas été donné au Capitole depuis 2007. Il n'y a pas très longtemps.
Il n'y a pas si longtemps
ouais.
que ça.
Oui, oui, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. C'est resté au répertoire, les Isirs.
Absolument.
Oui, oui.
Ça, c'est l'avantage d'être un théâtre de répertoire. C'est très important, hein, parce qu'il n'y en a plus beaucoup de théâtres qui conservent leur production. Là, on va bientôt jouer Werther, qui est une production qui a presque 30 ans. Hein. Donc, c'est formidable d'avoir dans ses réserves, dans nos réserves, de beaux spectacles que nous pouvons ressortir. Voilà. Ce sera le cas l'année prochaine de l'Élixir d'amour et d'Yenoufa.
Voilà. On reverra Kevin Amiel. Parce que là aussi, c'est une double distribution.
Double distribution, oui. Ouais.
Donc, premier rôle, Otar, Georges Icard.
Georges Icard, Ténor géorgien, merveilleux, qu'on a découvert ici dans Macbeth l'année dernière, avec Vanina Santoni, voilà, qui est une des jeunes cantatrices françaises qui monte. Deuxième cast, avec prise de rôle de Kevin Amiel en Emorino, et Gabriel Philipponnet pour Adina.
Voilà, donc deux distributions. Puis on aura le plaisir de revoir Kevin Amiel, qui avait fait une prestation très convaincante dans La Traviata. On s'en souvient encore. Alors après, du 28 mars au 4 avril, Platée de Jean-Philippe Rameau. Je parlais de l'opéra baroque tout à l'heure, là ça va être le français après l'Orfeo de Monteverdi. Et c'est aussi une nouvelle production. Et là, vous avez confié la mise en scène à Corinne et Gilles Benizio. Comme ça les gens disent, bon oui c'est qui? Eh bien, ils sont plus connus sous le nom de Shirley Idino. Parlez-nous un peu de ces deux-là, parce qu'il ne faudrait pas seulement les cantonner en tant que talentueux artistes de musical. Ils sont bien plus que ça. Et ce n'est pas la première fois qu'ils s'attaquent à des mises en scène d'opéra.
Absolument. Ils ont déjà travaillé plusieurs fois avec Hervé Niquet. Ils ont fait King Arthur, absolument formidable. Don Quichotte aussi, qui était très très bien. Hervé Niquet les a, comment dire, découverts. Pas découverts, mais il a eu envie de travailler avec eux. Donc c'est deux univers en effet très, assez éloignés, on pourrait imaginer. Quand ils avaient fait, je crois, un spectacle qui s'appelait Tout Shakespeare en une demi-heure, où ils, synthétisaient tout l'univers de Shakespeare en français en une demi-heure. Et il a été ébloui par leur prestation à ce moment-là. Et il est allé leur demander de travailler ensemble. Et depuis, donc, ce sont vraiment des compères de travail. Et en effet, bah, vous savez, moi, je pense toujours que le musical est une école du spectacle qui demande de la précision, de l'efficacité, du professionnalisme. Et notamment, là, le travail que nous faisons avec Gilles et Corinne depuis que le projet est en route, nous le montre absolument. Ce sont des gens d'une précision. C'est une école de la précision,
le musical.
Ouais. Ouais, c'est, d'ailleurs, il se trouve qu'hier, il y avait la remise de maquette après un an de travail. Et je crois que ça va être une formidable production. Et puis, la caractéristique de cette production, c'est que dès le début, Hervé Niquet, comme l'œuvre le demande, souhaitait qu'il y ait le ballet qui soit présent. Donc, on a cette force-là.
Très important.
On a des ateliers de décor de costumes, on a aussi un grand ballet. Et on voulait absolument que le corps de ballet soit là, c'est-à-dire pas quelques danseurs, etc. Mais
vraiment impliqué.
Voilà, le corps de ballet de la maison qui soit impliqué. Donc c'est une chorégraphie de Kader Belarbi, notre directeur de la danse. Et avec ce projet, je suis très heureux parce que nous irons à l'Opéra Royal de Versailles. Donc aller à Versailles avec Rameau du Capitole, j'en suis très content.
Fantastique pour tout le monde, pour toute la maison, puisque ouais. Le ballet donc est impliqué. 50 ans que ça n'a pas été donné au Capitole, plus de 50 ans même, le Platée. Et... les deux derniers opéras de la saison, très rapidement, c'est pas n'importe quoi non plus. Il y a Genoufa de Leos Janáček du 7 au 16 mai, reprise d'une production avec une mise en scène de Nicolas Joël. Ouais. Quelques mots peut-être rapidement.
Je trouve que c'est une des plus belles productions de Nicolas Joël avec Ezio Frigerio, une production très très austère et brûlante, et vraiment très très belle. Puis c'est un chef-d'œuvre. Voilà, ça a été donné une seule fois à Toulouse. C'était bien de le reprendre. À l'époque, ça avait été fait pour Hildegard Behrens. Là, on le reprend aussi pour une très grande cantatrice qui est Angela Denok. Et prise de rôle de Maria Di Nori. Là aussi, on donne un challenge formidable à une jeune cantatrice. Mais moi, il me semble qu'elle est née pour chanter ça. Et deux formidables ténors, dont un ténor français qui fait ses débuts à Toulouse par cette porte-là étrange, mais qui reviendra après dans des choses, qui s'appelle Amadi Laga et qui est ténor phénoménal.
Bon, notez ce nom. Amadi Laga, donc Genoufa de Leos Janáček du 7 au 16 mai. Et puis donc, nous vous l'avions dit, c'est aussi une nouvelle production qui va clore la saison du 23 juin au 2 juillet. Et c'est Le Diable qui a le dernier mot, puisque c'est Méphistophélé d'Arrigo Boito qui termine la saison.
Oui, là, c'est un projet donc, qui est né avec Jean-Louis Grinda, hein, qui est directeur des Corrigés d'Orange. C'est un ouvrage que j'aime beaucoup, c'est vraiment une extrêmement belle œuvre. Là aussi, c'est un ouvrage pour les chœurs, pour le chœur et l'orchestre. Très heureux de la distribution, puisqu'on a le premier Mephisto de Nicolas Courjal, encore une prise de rôle importante dans notre théâtre. C'est bien que ça se passe ici. Jean-François Borras, qu'on va découvrir
dans Werther,
et qui sera là pour Faust. Et une jeune cantatrice italienne qui, je crois, fait beaucoup d'effets lors de la présentation de saison. Elle est venue chanter.
Chiara Isotone.
Chiara Isotone, bouleversante. Notre grande Béatrice Armanzone, ça c'est le luxe Capitole, en Hélène dans cette œuvre. Et un chef d'orchestre aussi qui sera, je pense, une découverte pour notre public. Et qui a un nom prédestiné, puis il s'appelle Francesco Angelico. Donc je ne suis pas sûr que ce soit le diable qui ait le dernier mot, puisque c'est Francesco Angelico qui dirige.
Ah, vous m'avez pris à contre-pied, là. Vous aviez gardé un as dans votre manche. Bon.
Nous respirons.
Très bien. Alors, notez aussi qu'il y aura encore de superbes récitals cette saison 6 en tout d'octobre à juin, et que s'y produiront Sogley Isokoski, Ludovic Tézier, Jessica Pratt, Annick Massis, et la jeune soprano Elsa Dreizig et le grand ténor Michael Spires. Et puis je voulais aussi signaler qu'il y aura au Théâtre du Capitole plusieurs concerts de l'ensemble Les Sacboutiers les 17 novembre, 17 avril et 25 juin. Oui, on n'a pas le temps de parler de tout. Nous devons hélas terminer cette émission, à laquelle je remercie mes amis Anne-Marie Chouchan, Serge Chauzier et Robert Pénavert d'avoir participé, tout comme je remercie chaleureusement Christophe Grissy de l'avoir honoré de sa présence. Donc rendez-vous sur www.théâtreducapitole.fr. Pour réserver d'abord vos places à la dernière représentation d'Ariane et Barbe Bleue, ce dimanche 14 avril à 15h, il reste quelques places, mais il faut faire vite. Et puis donc sur ce même site web du Théâtre du Capitole, vous trouverez tout le détail de la programmation de la saison 2019-2020, les dates, les horaires des représentations des opéras dont nous venons de vous parler, ainsi que ceux des récitals, des concerts et des midis du Capitole bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, à vous réabonner dès maintenant. Je signale que l'ouverture des réservations se fera le 5 juin.
Pour les places à l'unité, les abonnements sont déjà...
Alors, abonnement tout de suite, et donc les réservations place à l'unité dès le 5 juin. Merci pour cette précision Christophe Grissy. Et donc pour revenir à l'actualité immédiate, je signale aussi la semaine prochaine le concert que donne le trio formé par le violoncelliste Yann Levionnois et deux très bons musiciens originaires de Toulouse, le pianiste Nathanaël Gouin et le violoniste Guillaume Chilem. Ils vont se produire mardi 16 avril à 18h15 à l'auditorium du musée des abattoirs. C'est dans le cadre de la saison bleue, au programme des œuvres de Stravinsky, Poulenc, Defaillat et Ravel. Réservation sur le site www.lasaisonbleue.toulouse.fr. Et enfin, notez également que le prochain concert de l'Orchestre National du Capitole est donné mercredi 17 avril à 20h à la Halle au Grain, sous la direction de Touven Sokiev, avec la participation du violoniste Vadim Glouzman. Concerto pour violon de Tchaïkovski, symphonie numéro 2 de Rachmaninov, la grande musique russe par les grands musiciens russes. Renseignements et réservations sur le site www.onct.toulouse.fr. Merci à Jean-Louis Arzac d'avoir assuré la régie technique de cette émission, qui est disponible en podcast et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de rester fidèle à cette émission. Allez au concert, allez à l'opéra et surtout passez une très bonne semaine musicale.